franceinter.fr.
Bonjour Alain Marathon, bonjour Alain Bougrain-Dubourg.
Bonjour. Bonjour.
C'était une dizaine Alain Marathon.
Comment ?
C'était une dizaine.
Oui, comment ça ?
Mais je parle de votre anniversaire.
Oh oui, j'étais très discret.
C'était 70 ?
C'est pas très agréable d'entendre de tels propos. J'ai quelques années de moins que vous. Je fêtais, et il est vrai, hier mes 50 ans.
Bon anniversaire.
Merci
Alain.
Beaucoup.
Oh, tu
Alain Marathon, il suffit parfois de regarder une plante pour savoir ce qu'il y a sous la terre.
Il est vrai que connaître les végétaux peut renseigner sur la qualité d'une terre, ses propriétés, sa richesse en eau. Un terrain couvert de fougères aigle, par exemple, indique que le sol est sableux ou acide. Et si votre propriété est envahie par les prêles, vous pouvez être certain qu'il y a de l'eau en profondeur.
Les plantes nous indiquent aussi quand le sous-sol cache quelques trésors.
Les propriétaires de terrains dans le Périgord noir le savent. Si votre domaine est calcaire et planté de noisetiers, de tilleuls ou de chênes, il y a de fortes chances pour qu'il y ait sous quelques centimètres de terre des truffes.
Mmh. Bien connaître la végétation peut là encore permettre de découvrir de vrais trésors.
Stéphane Agarty le sait et il le prouve. Notre homme est géologue à l'Université internationale de Floride et il s'est intéressé à une plante tropicale appelée Pandanus candelabrum. Elle pousse en Afrique de l'Ouest et en particulier au Libéria.
Et à quoi ressemble-t-elle ?
Alors pour faire simple, elle ressemble à un palmier et produit de longues feuilles, ce qui peut évoquer, comme son nom l'indique, candelabrum,
un chandelier.
Oui, oui. Alors ses racines sont aériennes et elle peut toutefois atteindre les 15 mètres de hauteur.
Donc si on vous suit bien, cette plante indique la présence sous terre d'un trésor.
Je vous explique. La kimberlite est une roche qui remonte parfois à la surface par un diatrème. C'est un terme qui désigne la brèche suite à une explosion volcanique. J'espère que vous me suivez.
Oui.
Il est ainsi possible de trouver, non pas dans les profondeurs, mais en surface, des pierres que l'on trouve dans ce type de roche et que les joailliers appellent diamants.
Mais quel est le rapport avec notre plante ?
Eh bien, notre Pandanus candelabrum ne pousse que sur ce diatrème et nulle part ailleurs. Alors l'intérêt, bien sûr, est immense. Plus besoin de prospecter pour trouver fortune. Il suffit de chercher le faux palmier et même si la quête est parfois décevante, Stéphane Agarty a déjà découvert, sans trop se fatiguer, 4 diamants, dont 2 de 20 carats.
Je vous avais posé une question il y a plusieurs mois. C'est
oui.
François
oui.
qui parle. Des phyla nodiflora que je souhaite enlever. Vous m'aviez conseillé de retourner la terre et de les arracher, ce que j'ai fait. Malheureusement, il reste plein de petits bouts de racines qui reprennent et dont je n'arrive toujours pas à me défaire.
J'aime bien cette petite plante, on l'appelle également la verveine nodulaire. Oh, vous la connaissez, c'est une plante tapissante qui produit des petites fleurs blanches, assez délicates, qui a l'avantage de résister au gel, qui a l'avantage de résister au piétinement, en un mot, qui a l'avantage de résister à tout. Mais quand on veut s'en débarrasser, effectivement, c'est pas facile. Vous savez, pour se débarrasser durablement d'une plante, il n'y a que deux solutions. Soit à l'arrachage manuel, à l'aide d'une binette, ou d'un outil, soit le produit chimique. Donc si le premier arrachage n'a pas suffi, eh bien, comme le disait, je crois, le regretté La Fontaine, revenez mille fois sur votre ouvrage, parce que malheureusement...
Gardez la binette.
Eh bien oui, on garde la binette et puis on continue à entretenir. Quantité de plantes, effectivement, ont la faculté de se bouturer par les racines. Le liseron, par exemple, vous avez un pied de liseron, vous en gardez, vous gardez sous terre une petite parcelle de racines.
Et ça repousse, évidemment.
C'est merveilleux, d'ailleurs, comme système de reproduction.
André cultive des rosiers en pot sur son balcon. J'ai vu apparaître un champignon jaune dans l'un d'entre eux. Que se passe-t-il ?
Alors, deux cas de figure. Soit le champignon pousse sur le rosier, le champignon est malade, il est fichu, il faut l'arracher. Soit le champignon pousse dans la terre, à côté, mais non pas sur le rosier, c'était pas très grave. C'est tout simplement un excès d'humidité et de dégradation de matière organique dans la terre. Vous savez, le terreau est produit à partir de feuilles mortes, ce genre de choses. Mais souvent, ceux qui nous vendent dans le commerce du terreau en profitent également pour broyer du bois. Il y a donc quantité de matière sur laquelle le champignon peut se développer. D'ailleurs, il est facile aujourd'hui de produire chez soi des champignons. Là aussi, on peut peut-être un jour en parler. Eh bien oui, il y a des gens maintenant qui, même dans leur cuisine, sont capables de cultiver les pleurotes. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire.
C'est tellement sympa, vous parliez hier de la cueillette. C'est beaucoup plus sympa d'aller
aller dans les bois. Et là, je le rappelle à nouveau, cueillir ce champignon qui pousse dans le rosier, ce ne sera pas plus mal esthétiquement. L'avantage en le retirant, c'est que ça limite sa propagation, parce qu'en supprimant le champignon, on supprime les éléments reproducteurs, mais par contre, ne rêvez pas, je vous rappelle que le champignon visible étant la résultante de la fructification du réseau de mycélium dans la terre, le champignon est toujours dans la terre. Règle numéro 1, arrêtez immédiatement d'arroser. De toute évidence, dans le pot où vit le rosier, il y a beaucoup trop d'humidité.
Anne a remarqué que les 5 buts de son jardin sont couverts de sortes de toiles d'araignées. En regardant de plus près, je vois que ce sont des cocons et mes buts commencent à sécher.
Eh oui, on en parle. Si vous saviez, Patricia, le nombre de lettres, le nombre de mails que je reçois concernant la pyrale du buis. Je rappelle que la pyrale du buis est une chenille qui boulotte d'une manière incroyable les petits végétaux.
Elles sont télécommandées par Bougrain Dubourg, il a horreur des buis.
Ça ne m'étonnera.
J'adore les buis.
C'est pas vrai. Oui. Menteur.
Parce qu'en plus, il ment.
Oui.
Eh ben, bravo. Et ce qui d'ailleurs ne m'étonne pas. Donc, au niveau des pyrales, ce sont des petits papillons de nuit bleutés qui, effectivement, les larves, elles, font quantité de dégâts. Le problème également, c'est que cette pyrale est arrivée en France il n'y a pas très longtemps, ce qui fait que les insectes et les oiseaux prédateurs, ne connaissant pas la bestiole, ont tendance à ne pas la boulotter. Quelques poules maintenant s'y mettent, donc quand on a la chance d'avoir des poules chez un voisin, on lui emprunte, il va peut-être débarrasser les buts de quelques pyrales.
Vous empruntez les poules du voisin.
Oui, mais pourquoi pas? Il y a des poules superbes dans mon voisinage.
Il y en a des très belles chez vous, me les avez montrées l'autre jour.
De tous les âges, je vous remarquerai. Je vous ferai remarquer. Alors, au niveau de la pyrale, c'est extrêmement, je parle bien des poules, on parle donc bien des gallinacées, que quelques auditeurs n'aient pas les idées un petit peu parfois coquines.
Personne n'y aurait pensé.
Non, vous avez raison, sauf Bougrain Dubourg, bien évidemment.
Bien sûr.
Donc, les pyrales, ça pose quantité de problèmes. Il existe aujourd'hui des traitements à base de Bacillus thuringiensis. Ce sont des bacilles qui sont en quelque sorte, je schématise, comme des bestioles qui se mettent dans le corps de la petite chenille et la dévorent de l'intérieur. Ce n'est pas très gai, mais c'est très efficace. Mais il est vrai que les pyrales font quantité de dégâts. Alors, que faire? Les éliminer à la main si on le peut, le maximum. Là encore, revenez sur l'ouvrage régulièrement et réfléchissez déjà au devenir de vos buis, peut-être même au remplacement. Les grands domaines y réfléchissent. Vous avez par exemple Volvicomte qui a d'énormes problèmes avec des buis. Vous avez le domaine de Saint-Jean-de-Borgard, les buis sont tous morts. La ville de Paris, à une époque, je ne sais plus pas ce qu'il en était, envisageait même de remplacer les buis par une variété d'Ilex crenata, c'est une variété de houx à petites feuilles. Le buis, si rien n'est fait, c'est à propos de la pyrale, est en danger de mort partout dans l'Hexagone.
Josiane a un jardin envahi par les porcelles. Je n'utilise pas de désherbant, nous dit-elle, mais je ne parviens pas à les arracher, même quand il a plu. Mon sol n'est pas un sol facile, peu de terre et beaucoup de phalins. Que faire?
Alors le phalin, comme vous le savez, c'est une roche très friable, souvent constituée de l'accumulation de coquillages. Et la porcelle, c'est une plante que vous connaissez, qui ressemble au pissenlit en fait. C'est une sorte de pissenlit avec des feuilles bien plates, mais la densité du feuillage est telle qu'aucune plante d'ailleurs ne sera capable de s'immiscer entre ces petites branches. Bah là encore, que faire? Eh bien, on coupe et on recoupe. Si on ne peut pas arracher, on donne un coup de binette, on peut quand même mettre sur tous les sols, mais il est vrai que c'est très compliqué à éliminer. Mais le jardin, c'est une activité physique. On demande aux amis, à la famille, aux enfants de participer. Cela permet de retrouver ou de conserver un corps de rêve. Ça permet également de se vider la tête. Il n'y a pas d'autre solution. Soit c'est de la chimie, soit c'est la sueur.
Vous avez un conseil à nous donner?
C'est du Churchill, ça. Hein,
oui, mais tout à fait. Oui, un livre.
Il est en train de chercher son livre.
Un livre assez fabuleux à lire, Le génie de l'arbre. Il est signé de Bruno Sirven avec la collaboration d'Alain Canet. Alors, Bruno Sirven est un géographe spécialisé dans les domaines du paysage et de l'environnement. Et il nous parle du livre, de l'arbre, et tout simplement de tout ce qu'il peut nous apporter, tant à la campagne qu'à la ville. C'est publié chez Actes Sud. Ça coûte 42 euros. Mais c'est vrai que
quand même,
c'est un très beau, un bel ouvrage. Ce n'est pas un ouvrage destiné aux amoureux des arbres. Là, on est vraiment un petit peu plus dans l'aspect scientifique. Idéal pour tous ceux qui veulent vraiment s'investir dans les arbres dans les villes. Donc, c'est paru il y a quelques jours
maintenant
seulement.
Maintenant, il faut partir, parce qu'enfin, pas partir, vous pouvez rester, mais je veux dire que là, vous êtes en train de piquer du temps à Alain Bougrain Dubourg.
Je m'en vais.